Mes chers collègues, mes chers amis, nous sommes ici parce que le ministère de l'Éducation nationale vous a facilité la vie, nous a facilité la vie. Dès le début de cette idée de lancer cette planète Terre et de le faire avec des finalités scientifiques précises, l'Assemblée des recteurs a réuni par le ministre, nous a entendus plaider. Et je dois dire que grâce à l'appui rectoral, dans les académies, la vie est plus facile. Vous le savez mieux que moi, mais nous autres, de l'autre côté de la barrière, avoir de tels interlocuteurs facilitait la vie. Il y a eu, surtout, de votre part, un tel enthousiasme pour faire de cette année une année qui passe de la pleurnicherie ambiante, de l'aspect millénium de la catastrophe, l'attitude millénariste qu'a connu le millénaire précédent, nous sommes en plein dedans. Tout va mal et tout, rien n'a jamais été aussi mal. Les géosciences montrent le contraire et les géosciences disent surtout, comme Mme Pécresse l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une catégorie de citoyens parmi les autres qui sait ce qu'il faut faire, comment il faut faire et quand il faut faire. Et cela relève des géosciences et n'a de sens que si c'est perçu comme tel par les jeunes que vous êtes en train de former. Je me suis livré, j'ai fait ça plusieurs fois et j'ai jamais abouti au même résultat. Je me suis essayé de me livrer à structurer les 10 thèmes que l'international nous a proposés. On en a rajouté un. Il n'en avait que 9, c'était plus simple. Il y en a 10 et c'est la vie, je le dirai tout à l'heure. J'ai structuré ce matin les affaires en 3 parties égales plus une conclusion. C'est une manière d'agrégatif et de leçon d'agrég, parfait. Je passerai mon concours à la fin, si vous voulez bien, mais pas maintenant. Le premier point, je voudrais donner un coup de lumière sur la démographie. Vous constaterez que la femme politique qui nous a parlé tout à l'heure a commencé par ça. C'est en effet ce qui concerne au premier temps la société. Je vous rappelais, ensuite, je vous rappellerai ensuite un élément fondamental. Nous appartenons au système solaire et tout ce qui concerne l'énergie en est issu. Je vous dirai ensuite que le temps géologique, qui n'est ni celui de la démographie, ni celui du système solaire, le temps géologique est une importance considérable. Et faute de le comprendre, on applique à une entité ce qui n'a rien à faire avec elle, c'est une erreur sur les unités. Et enfin, je conclurai en disant que la Terre possède des richesses qui sont bien loin d'être épuisées. Elles sont bien loin d'être épuisées si l'on les traite correctement. Et si, après avoir fait un prélèvement, on n'oublie pas de réparer ce que l'on a pris à la planète. C'est ça que je vais faire. La démographie. Pourquoi la démographie ? Les 2 chiffres ont été donnés par Mme Pécresse. 6,5 milliards aujourd'hui, 9 en 2050. Alors, des gens de mon âge, 2050, c'est l'infini. Pour personne d'entre vous, je pense, et pour aucun des gosses et des jeunes gens auxquels vous parlerez, il y a d'étonnement à ce qu'ils passent ce cap. C'est-à-dire que ceux à qui vous parlez vivent dans un monde qui changera considérablement de développement de l'Homo sapiens. Alors, pas dans la vieille Europe. La vieille Europe atteindra à peu près dans les années 2010 son pic de population et commencera à décroître. Ceci doit être bien avalé pour comprendre le problème. Ce qui s'applique à notre continent ne s'appliquera pas aux autres continents. Regardez l'Asie, l'Afrique, mais même l'Amérique du Nord, même l'Amérique du Sud, qui vont plus modestement, ne pensent avoir une démographie diminuante. Le regard que nous portons sur le monde ne peut pas être pris à partir du regard sur l'Europe. L'Europe n'aura pas de crise démographique, sauf si, et je vous avoue que dans mon fort intérieur, je l'espère vivement, une forte émigration ne rééquilibre la population du globe. Et cela se fera à partir de trois des thèmes que nous avons choisis. D'abord, 60% de la population en 2050, préviennent nos amis géographes et démographes, 60% de la population vivra dans des villes de plus de 100 000 habitants. C'est-à-dire qu'il y aura plus des 22 mégapoles qu'en 2020 sont prévues sur la planète, et cela crée une distorsion considérable dans la répartition des hommes et des femmes. Les géosciences ne peuvent pas être indifférentes, ne sont pas indifférentes. Tout ce qui concerne les mégapoles passeront par des travaux urbains considérables. Le problème des eaux, le problème des fluides, le problème de la circulation, de l'alimentation en général se pose. Nos amis géographes connaissent cette affaire et je suis content de commencer la liste en vous montrant la largeur des géosciences dans les connaissances. Deuxièmement, les sols. Les sols sont un domaine peu étudié. C'est un domaine qui pourtant est vital pour nourrir ces 9 milliards. Et ces sols sont faits d'êtres vivants entre des débris rocheux qu'ils agglomèrent, agglutinent, précipitent. Les sols sont au cœur de ce que deviendra l'humanité et au cœur de sa nourriture. Ne l'oublions jamais, on en a partout à observer, si on sait les observer, observer les paysages, cela apparaîtra. Et dans un troisième point lié à la démographie, c'est l'eau. L'eau, il n'y a pas de vie sans eau. Tous, nous savons que c'est plusieurs dizaines, plus de 90% en volume et en poids d'un organisme qui est fait d'eau. Il n'y a donc pas de vie sans une maîtrise de l'eau. L'hydrogéologue, le structuraliste ont à travailler avec le pédologue. Voilà un premier ensemble, c'est les 50 ans à venir, c'est donc les courtes périodes de vie minimum pour la majorité de vos élèves et la majorité d'entre vous. Le deuxième point change complètement. Nous appartenons au système solaire. C'est-à-dire que nous avons un soleil, une étoile, qui, par des phénomènes de fusion nucléaire, émet de l'énergie qui arrose les différentes planètes, dont la nôtre. Et l'arrose avec son rythme propre, et ce n'est pas un milieu homogène isotrope, c'est un milieu pulsé avec des pulsations qui commencent à être connues. Et il y a les planètes. Et les planètes, c'est aussi l'énergie nucléaire qui joue un rôle prépondérant, mais c'est l'énergie de fission. Parce que dans le nuage élémentaire, l'énorme agrégat qu'est le Soleil est entouré de petits agrégats qui, eux aussi, génèrent leur propre énergie par fission. Et cela nous permet d'aborder ainsi la Terre profonde. La Terre profonde, est autonome en énergie. Elle perd ce qu'elle crée, et elle en perd plus qu'elle n'en reçoit, bien évidemment. Et c'est ce qui explique les cellules de convection qui sont emboîtées les unes dans les autres. C'est ce qui explique les venues de gaz au travers d'un volcanisme qui, dès le début de la formation de la planète, a permis d'entourer notre planète d'un matelas de gaz, certes très différent de l'actuel. Et c'est notre planète qui, avec son énergie de fission, crée de tout temps des océans, mais ces océans sont d'une vie très courte. Nous ne connaissons pas d'océans plus de 300 millions d'années, ils séparent des continents qui, eux, sont très vieux. On n'en connaît pas de moins de 3 milliards et demi d'années. Jeunes océans, vieux continents, tectoniques les plaques, séismes, volcans, tout y est. La Terre profonde est le moteur de la genèse des océans fréquents, des continents qui se déplacent. Mais surtout, élément fondamental. Attention, pas dès le début. 4 milliards et demi d'années pour la planète. La vie apparaît à 2 milliards 7, 3 milliards, faut lire son journal pour connaître la date d'arrivée. Eh bien, c'est ça la particularité de notre planète dans le système solaire. C'est la seule où la vie a modifié l'atmosphère. Et c'est la seule où la vie a créé des roches de cette façon-là, par des phénomènes vitaux. C'est donc ce système solaire-là, voilà une autre trilogie, qui partant des caractéristiques chronologiques nous donne la possibilité d'associer terre profonde, océan et vie. La troisième triade, ce sont les temps géologiques. Mon premier point s'exprimait en années. Elle nous est sensible, cette chronologie, à nous, en tant qu'hommes, femmes, gamins ou vieillards. Nous savons ce que ça veut dire. Il y a ensuite le système solaire dont j'ai parlé. Ça, c'est le demi-milliard d'années, le milliard d'années. Qui les centaines de millions d'années. Ce n'est pas aisément perceptible. Et puis, il y a le temps intermédiaire. Et le temps intermédiaire, c'est celui qui va nous donner nos climats. Oh, non pas qu'il n'en ait pas eu dès le début de la planète. J'ai dit que la Terre profonde générait des gaz. Et ces gaz dont l'eau bientôt sera l'élément principal entourent d'une atmosphère la planète. Entourant d'une atmosphère de la planète, déjà à cette époque, il y eut des radiations qui par fusion bombardaient la planète et il y eut des énergies émises par la planète qui qui s'enfuyaient de celle-ci, mais étaient souvent butaient sur la magnétosphère, sur la haute atmosphère. Ça, c'est fait au début. Ce qui ne s'est pas fait au début, c'est ce qui nous entoure aujourd'hui. Il suffisait tout à l'heure d'attendre monsieur le représentant du ministre Darcos ou madame la ministre, il fait froid. Et c'est assez étonnant que 45 degrés de latitude, il fasse froid à cette époque. Et bien peu souvent dans l'histoire de la Terre, ceci s'est produit. Nous sommes en période glaciaire. Il y en eut une autre largement répandue il y a 300 millions d'années. Il y eut une autre largement répandue avant 600 millions d'années. Et après, les guides ne sont pas assez précis pour qu'on établisse la chronologie. C'est donc une période non banale dans l'histoire de la planète. Et ceci se traduit par le fait que de modestes variations de température fassent passer un milieu liquide en un milieu solide et influent sur l'importance et la dynamique, la cinématique des courants aériens dans l'atmosphère ou des courants dans l'océan. Nous sommes dans cette période. Alors attention, le premier Homo sapiens, bien sûr, je le dirai dans un instant, mais bien aussi le premier Homo. L'espèce d'individu qui est né ou de couples vraisemblablement qui sont nés sont toujours faits en climat glaciaire. Le calme de l'Oligocène ou du Crétacé supérieur n'a jamais été simultané à la présence de l'homme. Toute comparaison qui oblige que nous sommes en période glaciaire n'est pas valide de ce fait. Et c'est là que l'on retrouve la mécanique céleste dont je parlais en mon deuxième point. C'est que la température varie cycliquement et elle le fait pour des raisons de mécanique céleste. Elle le fait également par des modifications dans l'épaisseur, dans la nature de l'atmosphère. Et elle le fait parce que des gaz de nature différente vont enrichir l'eau, qui est l'essentiel du phénomène régulateur des climats en cette période. Donc les climats sont sur notre Terre liés à ce que nous sommes en période glaciaire. Et que chouïa de température fait des bouleversements considérables. Et puis, il y a une espèce qui est l'Homo sapiens. Alors, des grandes batailles ont eu lieu dans cet établissement. Il y a beaucoup de choses très sérieuses, très solides qui s'y construisent maintenant. Mais honneur au muséum qui a apporté ça dans ses bagages et en a donné la connaissance au monde. L'Homo sapiens, on se bat 300 000 ans, 120 000 ans. Ce qu'on sait, c'est que le feu, c'est 400 000 ans, c'est une technologie. Or, vous savez comme moi et bien mieux que moi que les cycles climatiques tels que les glaces les enregistrent sont des cycles de 110 000 ans, peut-être embrassés dans des cycles plus discrets de 100 000 ans. Donc, l'Homo sapiens n'a pas vécu des changements considérables. Il n'y a pas eu plusieurs cycles qui se sont abattus sur lui. Les cycles de 110 000 ans, il y en a au maximum pour les gourmands 3, pour les restrictifs 1 et un petit peu. Et là, quand nous pensons temps et ce qui a été subi, comparé la vie sur la Terre de l'Homo sapiens à ce qui était au-delà de 400 000 ans, attention, c'est le cas. Ce n'est pas du tout le milieu de vie, l'espèce n'existait pas. Donc les temps géologiques sont capitaux. Les risques climatiques sont en effet très importants, mais il y en a deux qui me paraissent déraisonnables, qu'aucun géologue ne peut admettre. Des espèces d'hommes, des individus, des groupes humains ont orné les grottes il y a 35, 45 000 ans. À cette époque, on ne peut donc pas parler de primitif. C'était un niveau de culture ancienne. Mais ceux qui ont fait ces peintures sont des hommes de très grande respectabilité. Ce n'est pas une ébauche de nous-mêmes. Eh bien, ils ont, à cette époque-là, n'oubliez pas, il y a 18 000 ans, il n'y avait pas de manche, l'océan était 120 mètres plus bas. Et en 18 000 ans, gentiment, il est venu à la position qu'il occupe. Et il y a eu, elles sont bien connues, des migrations, des écosystèmes et des biosystèmes. Il y a eu des chemins qu'on a connus et qui ont été mis au point dans cet établissement, des chemins de migration vers le nord et vers le sud. Et le temps géologique compte. C'est là quelques millénaires et parfois une fraction de millénaires. On approche là le temps des modifications climatiques et des risques qu'on encourt. Mais voyez-vous, et j'en arrive à ce point sur les risques, qu'il y a risque parce qu'on n'admet pas que la planète, en son état actuel, va changer. Volens, nolens. Elle va changer. Ce n'est pas l'homme qui l'a fait changer. Elle fait changer, je dirais quoi, mais l'espèce humaine va vivre avec des transgressions. Ceux qui connaissent le Nord savent que Saint-Omer fut un port de mer, et la transgression a existé, des vagues de régression, et ce n'est pas la fin de l'humanité. Et le mot durable, dont Madame Pécresse a dit, bien mal défini, mais très utile, n'a aucun sens. Il n'a pas un sens au moment de mon discours. Il en a, si l'on définit, comme aussi agréable que celui dans lequel on vit. Pas les Touaregs. Et on est donc sur ces risques climatiques, il est nécessaire de les bien évaluer et d'évaluer ses conséquences. Il n'est pas possible de lutter contre les mouvements liés à la mécanique céleste. Il est possible de lutter contre des datations de processus qui vont arriver et de vitesses qui vont arriver. Il est donc nécessaire de ne pas laisser dire que parmi les risques qu'il a de détruire notre planète, c'est aussi fou de penser que l'Homo sapiens, qui n'existera plus dans un certain nombre de temps, un certain temps, va détruire une planète. Il va détruire, s'il s'y prend comme il le fait, la possibilité d'avoir une durabilité de son progrès. Il y aura des difficultés à nourrir l'humanité, c'était au début, c'était la démographie, si l'on y prend garde. Mais ce n'est pas parce qu'il va y avoir des changements climatiques, c'est parce qu'il va y avoir un ajout au changement climatique, une anticipation. J'habite en vacances au golfe du Morbihan, à Gavrinis, il y a un joli alignement de roches. Eh bien, elles étaient complètement recouvertes au moment, à peu près au XVIIe siècle. Elles sont maintenant à demi recouvertes et elles ont été faites par des hommes tout à fait à terre, alors qu'il n'y avait pas le golfe du Morbihan. Donc, on ne peut pas faire l'équation entre la montée des eaux en soi. On peut faire l'équation entre la montée des eaux à une certaine date, mais pas qu'elle se produise un jour. C'est pour les constructeurs de digues que je dis ça. Et la vie, est véritablement aussi en cause ici. Il est vrai que il est de joli exercice de voir les espèces qui sont disparues et d'en faire fautifs les hommes d'aujourd'hui. D'abord, les hommes d'aujourd'hui savent reconnaître ceux qui existent. En ceci, sont meilleurs que ceux qui existaient il y a 100 ans. Je ne dis pas 30 ans, ça c'est autre chose. Il y a 100 ans, il y en avait moins. Il y a 200 ans, il y en avait plus, moins également. Donc vous voyez, la vie, faisons attention à n'en pas parler sans inscrire de le temps de l'histoire maintenant, plus de le temps de la géologie, dans le temps de l'histoire. Alors, je conclurai en parlant des ressources, et là, je suis très bref. Les ressources, j'en ai parlé de deux d'entre elles, qui pour moi sont les plus importantes, le sol et l'eau. Il y a évidemment à parler des matériaux, tout ce qui se fait, les matériaux et les minerais sont indispensables, et là, je n'ai rien à rajouter aux choses que chacun connaît. Il faut que des hommes et des femmes connaissent mieux les matériaux, car il y a une catastrophe qui apparaît maintenant, c'est que faute de savoir où sont les nouveaux gisements, on surexploite les anciens. Et cela, c'est parce qu'il n'y a pas d'études qui se poursuivent dans les compagnies minières. Et cela, les agences qui traitent de ces problèmes, je le sais, s'y intéressent énormément. Et il y a les énergies. Ça, on en parle tous les jours. Je garderai ma classification du système solaire. Ce dont on vit actuellement, c'est la fusion dans le soleil. C'est celle qui donne l'énergie qui est stockée sous forme de d'êtres vivants qui sont désormais crevés, que ce soit des arbres ou des plantules, et c'est les formations du fossile, mais c'est aussi les mouvements des vents, c'est les courants qui sont dus aux différences thermiques et qui non sont peuvent être aggravés par l'homme, mais qui ne sont pas dus à l'homme, qui sont inexorables au temps géologique. Et c'est vrai pour le soleil, c'est vrai pour le vent. Et il y a la fission. La fission est peu utilisée, c'est l'énergie nucléaire. Mais tous ont créé toutes les deux formes d'énergie issues de la fusion, issues de la fission. Toutes ces deux formes d'énergie ont créé quelque chose. Et ça, c'est de notre totale responsabilité. Le géologue, le géophysicien, nous devons savoir où sont les minerais, où sont les exploitations, les sortir de terre, le faire proprement et masquer et faire disparaître les déchets. Et je mets les déchets comme un des problèmes des consciences auxquelles il faudra bien se colter. Voilà ce que je voulais vous dire de mon exercice. Il y a 10 questions à que vous allez traiter, 10 questions où vous vous êtes intéressé à tel ou tel. Mais ce qui m'apparaissait intéressant, c'est de vous dire que cet ensemble de 10 questions, ce n'est pas tiré d'un chapeau. Je trouve qu'il manque une ou deux questions dont j'ai fait mes introductions. Mais il est capital que ce que disait Madame Pécresse, faut connaître pour agir et agir avec soin. Ceci, c'est une devise que nous devons avoir. Et nous devons simplement ne pas nous vêtir du coupable, pécheur devant l'Éternel, qui tue la planète, rend la vie impossible alors que jamais aussi peu d'enfants ne sont morts en bas âge, jamais autant de vieillards ne sont morts si vieux, et jamais autant de personnes adultes en ont été en si bonne santé, sauf, et je finis, 460 millions d'êtres humains qui, beaucoup à cause des guerres, pas mal à cause de l'incurie dans laquelle notre humanité les a laissés, sont en train de mourir de faim. Faisons que ce soit là que soit notre effort et non pas taper sur la poitrine du voisin pour pardonner nos péchés collectifs. Nous ne sommes pas dans un monde de péché, nous sommes dans un monde d'action et de compréhension. Merci de le faire tous ensemble.